pas reproductible, donc que vous devrez racheter tous les ans. Et sans savoir aussi vraiment comment c'est fait, d'où ça vient, si ça n'a pas été un peu transformé.
Alors quel est l'avantage des deux? Parce que tu as déjà dû essayer de faire pousser des graines classiques et des graines reproductibles, ou dont tu n'as jamais essayé finalement?
Non, avant de commencer cette aventure, nous on était sur la route, donc c'était plutôt les saisons, les voyages. Donc on s'est posé ici, je voulais faire une activité qui était à peu près en accord avec mes convictions. Donc j'ai trouvé...
C'était quoi tes convictions à la base?
Par rapport à la pépinière, c'est vraiment d'avoir une activité qui pèse pas sur la planète, qui pèse pas sur le commun, quoi, qui va vers le bon, quoi.
Okay. Et alors donc, ces graines, tu as planté les deux espèces de graines ou directement tu n'as planté que du reproductible? Non. Dès le départ?
Alors j'ai directement commencé avec du reproductible. J'ai pas cherché à comprendre l'hybride. Après, il y a pas mal de gens qui jurent peu que par l'hybride, même en bio, parce que évidemment, il y a une régularité, il y a une...
Une homogénéité, en fait.
Une régularité, et il y a une production des fois qui est un peu supérieure. Mais c'est... Après, il y a aussi des débats sur les qualités nutritionnelles de ces fruits, qui ne sont pas forcément aussi bien structurés que les fruits de variétés anciennes qui sont reproduits tout le temps.
Pourquoi? Alors on le sait parce que quand les semenciers travaillent sur des nouvelles espèces, ils vont travailler sur le fait qu'elle va se conserver mieux dans les frigos. C'est ce qu'on connaît pour la tomate en particulier.
Oui, pour la tomate qu'on voit en supermarché, c'est une tomate qui a été calibrée. Donc on sait qu'il y en a tant qui rentrent dans une caisse, qui résiste au choc, qui a une peau qui n'est pas trop grosse, pas trop épaisse parce que les gens n'aiment pas. Le goût, en fait, au final, on s'en fout. Parce que les gens, ils l'ont acheté.
Et la nutrition, encore moins.
Et la nutrition, oui, on ne sait vraiment pas ce qu'il y a dedans, quoi. Donc, oui, faire des analyses, ce serait pas mal, mais ça, voilà, j'aimerais bien en faire un jour. Après, j'ai déjà vu un reportage qui disait que, voilà, les analyses avaient été faites et que les résultats étaient sans appel. Les variétés anciennes, c'était beaucoup bien meilleur en vitamines, en phénol, en tout ce qui nous fait vivre, quoi, au final.
Et pour avoir autant de nutriments, souvent, il faut en manger 3, 4, 5 de nouvelles variétés par rapport à une...
S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'était Cyril Lignac qui avait fait des analyses sur la bouffe dans les cantines. Les courgettes, c'était comme si tu buvais de l'eau, au final. Parce que c'est de la courgette industrielle, produite en masse, à partir de variétés hybrides aussi, qui produisent beaucoup. Voilà.
Alors qu'est-ce que tu conseilles aux gens de mettre? Alors là on a parlé des tomates, tu en fais, elles sont là, on est au début du printemps, donc elles sont sous serre, tu vas bientôt pouvoir les vendre aux gens, mais enfin il faudrait peut-être, selon les régions, attendre avant de les planter en pleine terre peut-être quand même.
Ouais. Vaut mieux attendre, oui, là pour l'instant, la petite gelée le matin, donc la tomate elle n'aime pas en dessous de 15 degrés la nuit, voilà, il faut généralement on dit les saints de glace, après maintenant... Des fois au mois d'avril, on arrive à début avril, on pourrait les planter, il y a peu de gelée, mais des fois, il y a une dizaine d'années qu'il a neigé le 5 mai. Quoi.
Alors qu'est-ce que toi tu fais planter? Bon, les tomates, ça c'est le coup classique, mais en général, quand on rentre dans cette aventure des graines anciennes, on est aussi souvent sur le légume ancien, celui qui est un peu oublié. Tu es là-dessus toi ou pas du tout?
Pas forcément, non. Sur mes variétés, surtout sur les variétés qui sont reconnues comme productives et qui font des beaux fruits qui peuvent se reproduire. Voilà. Après,
qu'est-ce que tu fais à part les tomates ici?
Tout ce qui est potager, je fais pas mal d'aromatiques aussi différentes. Pour les goûts, il y a pas mal de goûts de senteurs. Voilà, je fais de l'artémisia.
Voilà, l'artémisia, tout le monde n'en a pas dans son jardin. C'est quoi de l'artémisia?
L'artémisia, c'est une plante, l'artémisia annua, c'est une plante assez puissante qu'il ne faut pas trop non plus en abuser, mais qui soigne tout ce qui est maladie de virus, quoi. Tout ce qui...
D'accord.
Voilà. Donc pendant le Covid, j'ai eu des ventes d'artémisia comme jamais, quoi.
Donc là, c'est des sauges, c'est ça?
Ça, c'est sauge officinale, on a de la nette, là, il y a les céleri. Là, des petits persils qui sont en retard.
Ça, c'est pas du céleri, ça, c'est des...
Ça, c'est des courgettes que j'ai fait pour les gens en serre, voilà, qui sont déjà bien prêtes. Que du coup, ça, je vais en planter aussi une dizaine pour faire mes graines pour l'an prochain.
Oui, en fait, dans ta production, tu en gardes toujours un peu pour faire tes graines pour l'année après.
Oui, dans ma production, il y a pas mal de variétés que j'essaye de reproduire moi-même. Après, il faut faire attention au croisement. Donc, vu que mes plantes que je vends, je ne vois pas le fruit chez les gens, Je veux être sûr, et donc il y a beaucoup de variétés quand même que j'achète chez le semencier qui m'assure une régularité, quoi.
Alors ton semencier à toi, c'est...
Moi j'achète beaucoup chez Biogerme. Après il y a aussi Sembio, après il y en a plein des petits semenciers.
La ferme de Sainte-Marthe ?
Non, pas vraiment, la ferme de Sainte-Marthe, je connais aussi. Ils font des choses bien, mais après ils vendent pas en mode maraîcher, quoi.
C'est pour l'individuel.
C'est que du détail, quoi.
Donc c'est un peu plus cher, ce serait trop cher pour toi.
Ce serait un peu cher, oui, pour les mêmes choses. Ah. Quoi. Voilà.
Ça c'est quoi? Ça c'est des betteraves? Non, je dis conneries.
Ça c'est de la coriandre.
D'accord.
Elle a rougi parce qu'elle a une petite fin, là, je pense.
D'accord.
Ouais, il faudrait la planter.
C'est quoi? C'est des fins d'azote, là, quand on voit souvent les feuilles.
Tout ça aussi, c'est des fois un excès d'eau.
D'accord.
Qui peut faire ça. Petit chaud.
Ça c'est quoi?
Ça c'est du périlla vert.
C'est quoi ça?
C'est une plante, c'est le chiseau. Je sais pas, c'est plus connu sous le nom de chiseau. C'est une plante aromatique qu'on utilise beaucoup dans les pays asiatiques. Ça a vraiment un goût spécial entre le cumin et c'est très bon, quoi. Après, très bon pour la santé aussi.
Ça, ce sont des artichauts?
Alors, les artichauts, non, j'achète les graines pour l'instant.
D'accord.
Là, j'en ai planté une dizaine dans le fond du jardin là-bas pour la semence. Et oui, je vais me laisser monter en fleurs et normalement, j'ai les graines dans le capitule.
Mais de toute façon, l'artichaut, quand on le plante, Il se divise et il reste en place. On a besoin que d'acheter un artichaut et normalement on le garde pour 10 ans, on le divise.
On peut le diviser, ouais, l'artichaut, ouais. Dès qu'au printemps, quand ça ressort, une fois qu'il a donné, il faut tout couper. Après ça ressort, on peut le diviser en 3-4. Et comme ça, oui, multiplier ses artichauts d'année en année. Quoi. Et ça se garde, il y a des gens qui les gardent des années et des années. Voilà, ensuite les premiers basilics. Là, les gens, ils attendent.
Pour les mettre avec les tomates.
On m'en demande tous les marchés. Et non, c'est pas encore. C'est pour qu'ils le perdent, ouais, ça sert à rien. Ouais. Là, on a du fenouil bulbe, fenouil doux de Florence. Là, c'est des tomates qu'on a mis en gros pot, des tomates cerises pour les gens qui ont des apparts, qui veulent mettre ça sur le balcon. Ensuite, c'est quoi? De la monarde citronnée.
C'est quoi la monarde citronnée?
Ça fait des belles fleurs et c'est un goût un peu citronné, quoi. Après, surtout pour la fleur, c'est joli pour la fleur. Ouais.
D'accord. Très bien. pour ceux qui veulent faire de l'alcool.
Alors ça, il faut le distiller après. Mais il y a plein de choses à faire avec l'absinthe.
Ah ouais,
quoi. On peut la mettre dans des plats, on peut faire du thé avec aussi.
D'accord.
Ça se fait beaucoup au Maroc. Il y a aussi, c'est un très bon insectifuge.
Okay.
Donc un petit purin d'absinthe et hop, on fait partir les pucerons. Voilà.
Super. On va faire une petite pause musicale. Et qu'est-ce que tu as envie d'écouter?
Qu'est-ce que j'aimerais écouter? Un Beastie Boys, t'as ça?
On peut mettre ça.
Allez.
You know what it might be, my man?
Nous sommes de retour en Gascogne, dans le près de la Lèze. C'est une rivière, un affluent de la Garonne, je crois. C'est ça, c'est le Lèze.
La Lèze. Ouais.
Et donc, on est avec Olivier Malvina dans les mauvaises graines, dans les très bonnes graines reproductibles, donc chez ce pépiniériste qui ne propose que des plantes issues de graines reproductibles, non OGM.
Non hybride.
Non hybride, voilà. C'est le terme. Tu travailles évidemment, sinon je ne serais pas venu, en bio. Alors pour toi, ça consiste en quoi, travailler en bio? C'est quoi la philosophie? Et dans la pratique, ça consiste en quoi?
Alors pour moi, ça allait de soi de travailler en bio déjà, quoi. C'est travailler un peu dans le respect de la nature. Voilà, j'utilise toujours du plastique pour le terreau et pour les pots. Et bon, de moins en moins, après, je suis passé à la motte. Donc les mottes, c'est des carrés de terre compressés. Ça me permet d'économiser beaucoup de plastique. C'est que du plastique réutilisable, quoi. Donc voilà, le bio, ben oui, ça va de soi maintenant à cette période, quoi. On peut plus penser autrement, quoi, je pense.
Quand on pense à sa santé et à celle à qui on vend les plants.
Oui, quand on lance une activité, maintenant, faut voir l'impact qu'on a sur l'environnement, quoi.
Il y en a qui s'en fichent complètement.
Il y en a toujours qui s'en fichent complètement, même c'est à la mode de plus en plus, on dirait, quoi. Mais bon, c'est peut-être la manière de fermer les yeux et de dire qu'il se passe rien, quoi.
Et alors, toi, tes plantes, tu leur fais quoi? L'engrais, par exemple? Qu'il faut quand même, quand on a des cultures comme ça, il y a quand même des ravageurs, il y a quand même des maladies, des champignons en général, des choses comme ça. Comment tu règles ça, toi?
Alors, j'utilise au minimum de produits. Après, des fois, j'ai un produit anti-puceron utilisable en agriculture biologique. Mais j'utilise vraiment au minimum, quoi. Après, j'essaye de faire quelques purins pour prévenir.
Alors les purins, on va en parler un petit peu, ça aussi c'est un autre combat, c'est là aussi un combat qu'ont mené beaucoup de bio à l'époque. L'ours et la carotte, on avait été sur le combat du purin d'ortie, c'était les grosses firmes encore une fois qui voulaient empêcher de partager et d'utiliser ces recettes qui se font en général à partir de plantes, c'est pas du purin animal, c'est de la macération de certaines plantes qui vont avoir des propriétés pharmacologiques sur les plantes. Par exemple, on va mettre de l'ortie qui va permettre d'avoir de l'azote dans le sol, aux apports de l'azote. Qu'est-ce qu'on a? On a plein d'autres recettes comme ça. La prêle contre les maladies champignons.
Oui, la prêle, ça apporte des minéraux, ça, oui, contre les champignons, les parasites. Après, on peut faire l'absinthe que je t'ai dit tout à l'heure, là, du coup, qui permet de faire un antipuceron assez puissant.
Et tu le fais, ça? Parce que moi, j'avais fait antipuceron, j'avais fait avec de l'ail, je crois.
Il y a pas mal de choses, ouais, antipuceron. Bon, le mieux antipuceron, c'est le préventif, quoi. Donc il faut le passer avant. Par exemple, on peut faire un petit purin de tomate, faire macérer des tomates pendant 3-4 jours à 20 degrés. Pulvériser ça surtout sur les poivrons, les aubergines qui sont plus sensibles. Et ça permet de faire un truc préventif. Bon, ça sent un peu mauvais, mais du coup, ça éloigne les pucerons. Peut-être qu'ils ont aussi l'odorat.
Et c'est pas toxique? Contrairement aux produits qu'on peut trouver, même pour l'agriculture biologique dans le commerce.
Bah, tu me parlais tout à l'heure, tu disais tout à l'heure, oui, qu'ils ont fait un combat contre le purin d'ortie, sauf que maintenant, dans tous les commerces, on trouve du purin d'ortie vendu à prix d'or. Vraiment, c'est hallucinant le prix où ils le vendent au litre, alors qu'on peut le faire soi-même dans un fossé.
Et y a des livres pour ça, pour apprendre à le faire, avec toutes les recettes, toutes les utilisations. Oui. Et le but étant d'être autonome, ça c'est un autre de tes combats.
Alors moi, ça a toujours été toute ma vie d'être autonome et d'être libre de mes choix. La liberté, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc voilà, moi j'ai toujours fonctionné on va dire en mode anarchie, en respectant toujours les autres, mais voilà, en faisant un maximum que je peux faire moi-même. Et voilà.
Sur les associations de plantes entre elles, est-ce qu'il y a des choses que tu fais? Il y a des plantes que tu ne mets pas à côté d'autres? Est-ce que tu as vu des associations de cohabitation qui n'allaient pas?
Alors non, je ne suis pas vraiment là-dessus, moi. Il y a tout qui bouge un petit peu dans les serres tout le temps, donc moi, c'est surtout les gastéropodes, quoi, que j'évite. Et après, non, le temps de les faire grandir. Après, dans le jardin, on peut associer quelques plantes. Par exemple, je sais que le persil peut s'associer au poireau, ça évite la mouche, des trucs comme ça. Après, moi, je suis horticulteur. Donc le maraîchage, c'est un autre métier. Je plante un petit peu dans mon jardin, mais moi, quand je dois planter, y a mon jardin, il y a de l'herbe qui fait un mètre. Et voilà, moi, je plante tout le temps en juin, en retard par rapport à tout le monde.
Les cordonniers les plus mal chaussés.
Voilà, on peut dire ça. Ouais. Là-dessus, c'est vraiment comme ça. Ici, Ouais, un jour, il faudrait que j'arrive à faire les choses.
Alors, tu disais les gastéropodes, tu t'en débarrasses comment des escargots et des limaces?
Alors ça, j'ai trouvé, c'est l'orthophosphate de fer, qui est assez efficace, parce qu'après...
Donc ça, tu l'achètes, ça, c'est pas de l'autonomie?
Non, ça, je l'achète, quoi, parce que sinon, j'ai essayé plein de choses, mais non, il passe quand même. La sang, les cheveux, la bière, ça les attire, c'est pas mal, mais au final, on en a plus, après. Ça les tue pas non plus, donc là, ouais, je suis obligé, moi, je peux pas me permettre, en plus, c'est de tout petits plans, donc un escargot qui passe sur une plaque, il m'en bouffe une trentaine d'un coup. Donc je peux pas me permettre de perdre tout ça comme ça, quoi. Là, ouais, là-dessus, j'ai pas encore trouvé autre chose.
Donc c'est les petits granulés, mais ils sont utilisables en agriculture biologique,
voilà, c'est l'orthophosphate de fer. C'est du fer un peu modifié, mais il n'y a rien de vraiment chimique. Et oui, faut faire ce qu'on a, hein, pour l'instant.
Comment tu pourrais donner conseil aux auditeurs de... Alors voilà, hein, y a peu d'auditeurs qui habitent près de chez toi. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour repérer sur un marché, par exemple, un vrai, c'est comme l'histoire du bon et du mauvais chasseur, bon et un mauvais pépiniériste? En quoi c'est en général celui qui est le plus route, c'est qui a les moins belles étiquettes, qui va être celui qui va donner les plans les plus locaux?
Bah, vu le travail qu'on a, oui, je veux bien y croire, parce qu'on n'a pas le temps de faire des étiquettes. Moi, je les fais sur le marché à chaque fois. Mais après, c'est tout simple de reconnaître quelqu'un qui achète des plants. Les plants sont tous à la même hauteur, ils sont tous de la même couleur, ils sont tous dans les mêmes pots. Moi aussi, oui, j'ai pas dit, mais je récupère sur les marchés, je récupère tous les pots que je vends. Je dis aux gens de les ramener dans la limite de ce qu'ils peuvent. Et je réutilise tous les ans un maximum de pots. Donc au final, j'ai mes pots, moi, ils sont tous différents de couleurs. Après, les tailles, j'essaye de faire les mêmes quand même. Mais ça a tous des couleurs différentes. Voilà, donc...
Moi, ma pépiniériste, quand j'étais petit, quand on allait chercher avec mes parents, elle enlevait les plantes des pots. Et ouais, elle a roulé dans du papier journal, dans le papier journal.
Oui, avant, sur les marchés, avant, il y a tout qui se vendait en racines nues.
C'est ça.
Donc les tomates et les salades, ça se vendait en racines nues. Les poivrons, ça se vendait en racines nues. Ou sinon, en motte, là, comme je travaille. Donc en motte, c'est du terreau pressé que je mouille et que je presse. Ensuite, je repique mon plant dans cette motte. Ça va grandir là-dedans. Et je vends aux gens juste la motte. Il n'y a aucun plastique, quoi. Donc je peux mettre dans du journal ou...
Ok, donc c'est ça la recette, c'est de regarder un petit peu les pots, de regarder s'il y a des codes barres sur les pots.
Alors, s'il y a des codes barres, et bien vous regardez le code barre, et si c'est écrit 4, c'est Italie, si c'est écrit 3, c'est France, je crois Belgique, c'est 2, le premier chiffre. Mmh. Voilà, ça se reconnaît directement. Oui.
Très bien. On n'a pas discuté avec Malvina un petit peu dans cette aventure parce qu'elle t'a suivi. En général, les aventures comme ça où on fait tout soi-même, où on est sur l'autonomie, en général tout seul c'est un peu compliqué parce qu'il y a des périodes dures et on n'a pas forcément les moyens quand on se lance d'embaucher quelqu'un. Donc Malvina, toi tu bosses à côté?
Oui, moi je travaille à côté en maison de retraite avec des personnes âgées plus essentiellement.
Et c'est toi qui du coup au début de l'activité a fait bouillir la marmite pendant que l'activité se lançait petit
oui,
à petit.
Bah après c'est un travail d'équipe, on se relaie quand la pépinière est calme, je travaille, quand c'est la saison j'arrête de travailler pour pouvoir aider ici et m'occuper de la maison, des enfants et faire la vente à domicile et tout ça.
Vous faites de la vente à domicile?
Oui. Enfin, les clients viennent ici également à la pépinière. Et
je croyais que vous alliez chez... Quand tu me dis vente à domicile, comme tu m'as parlé de personnes âgées, j'imaginais que vous alliez chez les gens.
Non, du tout. Mais quand Olivier est sur les marchés, j'ai des clients aussi qui viennent ici. Donc du coup, puis moi quand je suis ici, je fais l'arrosage. Voilà, des petites choses à faire ici, quoi.
Ça te plaît? C'est ton choix aussi?
Oui, c'est mon choix aussi. C'est vrai que cette aventure-là m'intéressait aussi. L'autonomie, vivre par soi-même, c'est quelque chose qui me tient à cœur également. La liberté aussi. Mais j'aime aussi les personnes âgées. Donc du coup, c'est bien, ça permet de faire les deux à la fois.
Tu pourrais même faire des ateliers jardinage.
J'ai animé une fois un atelier à la bibliothèque d'Oane. Voilà, et là, normalement, je dois le refaire là, cet été, là, le 24 mai, normalement.
Par contre, pour des gens qui ont aimé travailler, bouger en camion, là, du coup, le travail de la terre, c'est celui qui t'empêche de bouger. Mais ça a changé la vie de votre couple.
Ça a changé notre vie. Bah, après, les enfants aussi ont changé. Ça a changé. Si on s'est sédentarisé aussi, c'est pour permettre aux enfants de faire leur choix à eux et d'être scolarisés, d'avoir leur, de pouvoir se faire leur petit monde à eux. Parce que nous, la vie nomade, c'était notre choix. Mais les enfants, eux, ont besoin de faire leur choix à eux. Donc, du coup, on s'est sédentarisé. Mais le fait de faire les marchés et en même temps. En fait, je ne fais pas la même chose toute l'année. Donc du coup, je retrouve un peu ma vie de saisonnière, on va dire.
De la diversité, que ça bouge et que ça change.
Et voilà, je ne fais pas tout le temps la même chose, je n'ai pas ma routine d'avoir le même boulot tout le temps, les mêmes responsables tout le temps.
Et sur quelqu'un qui voudrait s'installer, c'est-à-dire qui voudrait faire comme toi, se poser sur un terrain du coup agricole, ça c'est l'avantage, sur lequel, avec une activité comme ça, celle-là, on peut vivre. Du moment qu'on fait tout bien pour les égouts et pour tout ça. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui voudraient s'installer en pépinière ?
Alors moi, ça a été, quand je me suis installé, je me suis dit, pendant 5 ans, je ferme les yeux et puis je vais tout droit. Donc ça a été beaucoup de travail, des années, au moins 2 ans sans vraiment bouger. En montant tout, aussi il faut beaucoup s'informer, lire, demander.
Tu n'avais pas de formation dans le domaine ?
Eh non, j'avais pas de formation, non. J'ai pas quasiment rien planté avant. J'avais fait un petit potager une fois en été où on s'était posé au bord d'une rivière. Mais non, j'avais jamais. Et donc voilà, les plantes après c'est quand même assez logique. C'est...
La forme juridique, t'es installé sous quelle forme ?
Alors j'ai monté une entreprise, une EIRL, une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Et après je me suis mis en cotisant solidaire, donc ça permet...
Ça c'est, cotisant solidaire, c'est le régime agricole.
Oui, c'est le régime à la MSA, donc ça me permet d'avoir une petite cotisation à la MSA, sinon ouais, ça m'écraserait pas mal.
Donc la cotisation à la MSA permet d'avoir la sécu... C'est ça ? Permet d'avoir une retraite ? C'est pour ça que tu t'y es mis ?
Non, par contre, voilà, en cotisant solidaire, on a juste la sécu, on ne cotise pas à rien du tout. Donc on ne cotise pas à la retraite. Donc la retraite, ce sera moi qui me la ferai. Là, j'ai plus le choix. Ouais, ce sera comme ça. Mais après, c'est quelque chose qui me plaît, donc je voulais le faire quand même. Et voilà.
Et en avant ?
Ouais, en avant.
En fait, surtout, c'est pas avoir peur, c'est peut-être ça le conseil.
Oui, le conseil, c'est de ne pas abandonner. Quoi. C'est comme quand on est en bas d'une montagne quoi, et qu'on a envie de la gravir, et bien, faut fermer les yeux et puis y aller. Et voilà, et pas désespérer. Et puis beaucoup, surtout, se renseigner, discuter avec les gens du métier. Voilà, trouver voir comment les autres travaillent. Faut observer.
Et aimer les gens, donc peut-être aussi la clientèle. Elle se fait aussi sur la confiance, sur la comment on fait la première fois qu'on arrive sur un marché avec ses trucs et ses cheveux pas bien peignés.
Petit truc un peu rigolo. Moi quand j'ai commencé, mon but c'est de produire du plan et j'avais pas vraiment pensé à la vente. Donc première année j'ai fait du plan, j'ai attendu les gens chez moi et bon mais c'est pas passé grand chose. Après, j'ai acheté cette petite serre à un horticulteur qui se mettait à la retraite. J'ai travaillé un petit peu avec lui pour voir comment il travaillait aussi. Donc voilà, j'allais de temps en temps l'aider. Puis voir, pendant 2-3 mois, j'ai fait ça. Il m'a appris un peu le boulot et du coup, voilà, il m'a dit « il faut aller sur les marchés, t'as pas le choix ». Et donc j'y suis allé, quoi. En temps course un peu. Et puis bon, au final, on s'habitue aux clients. Hein, c'est quand même une activité assez marrante. Mais assez fatigante quand même. Parce que là, il faut charger, décharger. Et quand on fait 4 marchés par semaine... Ça...
Et puis les marchés, il faut s'installer très tôt le matin. C'est à 6h en général.
J'arrive à 7h sur les marchés. Ça va, oui. Après, non, sinon, il n'y a personne. Donc j'ai mes places maintenant. J'ai pas besoin d'attendre... Donc le marché c'est intéressant quoi. Après on voit plein de gens, on voit plein de monde. Mais c'est quand même du sport.
Ouais. Bon mais super. Alors on rappelle si vraiment vous passez par l'autoroute c'est la 64 hein, entre Océan et Méditerranée, ouais. Entre Biarritz et Toulouse. Mauvaise Graine, ça se situe.
La Mauvaise Graine, ouais, qui se situe à Beaumont-sur-Lez, c'est à côté de Muret, au sud de Toulouse, à 20 minutes au sud de Toulouse.
Mais voilà. Tu fais pas de marché dans la grande ville, toi, tu restes sur cette campagne périurbaine.
Là, je fais maximum 20 km pour faire le marché. C'était mon but aussi. J'ai fait un peu de chauffeur poids lourd. Mon but, c'était pas faire de la route. Et voilà. Et de rester surtout local. Ouais, c'est ça qui est intéressant parce que les gens ils viennent ici ensuite voir la pépinière. Super. Voilà.
Ça devient un lieu de vie. Et ça devient une vie, tout ça.
Ça devient une vie, oui. Maintenant 6 ans et ouais, ça fait son petit bonhomme. Ouais.
Ah ben super. Ben longue vie à la mauvaise graine. Merci Olivier, merci Malvina. Au revoir.
Merci à toi et longue vie à l'ours et la carotte. Ouais.
Merci beaucoup et une bonne continuation à vous aussi.
L'ours et la carotte, écoutable sur internet. À la semaine prochaine.
Le mix des cultures 99 HDR. And that little bit that I don't get, I can't share my baby with nobody else. She gave to him, yeah. So Toma, Tyson depression, over aggressive, come through. Mausoleum vans, delicatessens. Heavy metal warfare when we closing a section. Box cutter, I can say this shirt, holding the shoulder weapons. Modified Russian stock. It's a
le mix. Le dernier vendredi du mois, de 17h à 18h, en direct sur Radio HDR 99.1, direction Les Pieds dans la Lune. Toute l'actualité, livres, concerts, disques, avec le petit plus, les coups de cœur culture de la team HDR. Les Pieds dans la Lune.
Les Pieds dans la Lune.
Le dernier vendredi du mois, de 17h à 18h, sur Radio HDR 99.1.
Et a-t-il pour votre cher Véchy?
Ici Londres, votre émission un mercredi sur deux, de 17h à 18h. Venez découvrir les portraits des associations, leur histoire, leur mission, leurs projets et leurs actus. Ici Londres, un mercredi sur deux.
À quelle heure dites-vous?
De 17h à 18h. C'est sur le 99.1 FM. HDR.
Salut, c'est Mathieu Morand. Retrouvez-moi tous les jeudis à partir de 20h sur Radio HDR. Et cette saison, on remonte le temps. Chaque semaine, un nouvel épisode de mon émission Hard Time Machine. Un voyage musical sur la planète.